Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Je suis très heureux de vous retrouver. Et avant de dérouler notre sommaire, je voulais qu'on réécoute ces quelques mots de Bertrand Tavernier.
Je me suis énormément amusé. J'ai fait ce que j'avais rêvé de faire quand j'avais 13 ans. J'ai accompli tous les rêves, sauf de rencontrer Gary Cooper. Ça, c'est ma grande, grande tristesse. Tous les films que j'ai faits, ce sont des films que j'ai voulu faire, avec Galabru, avec Rochefort, c'est des moments formidables. Puis aussi avec des écrivains, mais aussi avec des gens qui inspirent des films. Bah, j'ai l'impression, moi, que j'ai tellement appris. Donc voilà, je me dis que j'ai eu une vie formidable.
Bertrand Tavernier, ce grand amoureux du cinéma, réalisateur de plus d'une vingtaine de longs métrages, qui nous a quittés jeudi. Il aimait raconter le cinéma, il venait régulièrement sur notre antenne à l'occasion de la sortie de certains de ses livres. Voilà, nous lui dédions cette émission et nous allons, à notre modeste niveau, nous aussi tenter de continuer de vous raconter le cinéma. Avec aujourd'hui un récit consacré à la représentation du monde médical sur grand écran. D'abord parce que crise du Covid oblige, on n'a jamais autant parlé de médecine, de santé et vu autant de reportages dans nos hôpitaux. Et puis parce que dans quelques jours débarque sur Canal+, la nouvelle saison d'Hippocrate réalisée par Thomas Lilti, lui-même médecin, qui a d'ailleurs remis la blouse durant cette crise Covid. Thomas Lilti qui sera notre invité. On lui demandera notamment comment la figure du médecin à l'écran a-t-elle évolué. 14h30, vous avez rendez-vous avec les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Pio Marmaille qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Alors par exemple, écoutez-le nous raconter une séance de cinéma qui l'a beaucoup marqué.
Un film des années 2000 avec Rihanna, ils se font attaquer par des extraterrestres. Et les gens étaient complètement hystériques dans la salle, les gens criaient, gueulaient, « Salaud d'aliens, détruisez-les !» Il y avait des trucs qui volaient et du coup, moi je me dis « Mais putain, mais c'est un peu la foire, il y avait une sorte de truc un peu foire d'empoigne, ouais, je suis assez bon client. »
Voilà pour la suite des souvenirs cinéma de Pio Marmaille, rendez-vous dans une demi-heure. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films qui sortent en DVD, VOD ou sur vos plateformes. Nous parlerons de Wonder Woman 84, de La Loi de la Jungle, de Je te veux moi non plus sur Prime Video et de Tanguy le Retour, ça c'est sûr. OCS. Voilà pour le programme de votre Clap, que vous retrouvez également en podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Et d'abord donc, place à notre récit consacré au monde médical sur grand écran.
Europe 1. Le récit.
Le médecin fait partie de la galerie de personnages du cinéma depuis longtemps. Mais le plus souvent, son activité médicale n'était pas le cœur de l'histoire, mais plutôt un prétexte, comme il aurait pu être professeur, mécanicien ou journaliste même. Prenez le film Docteur Françoise Gaillan, sorti en 1976. Certes, c'est l'histoire d'une médecin réputée qui a tout sacrifié, et notamment sa vie familiale pour sa vie professionnelle. Mais lorsqu'elle découvre qu'elle est elle-même atteinte d'un cancer du poumon, ses certitudes vacillent et elle va tout remettre en question.
Vous êtes venu pour me confesser, vous aussi ?
Non ? Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant de votre connerie ?
Rien. Je me sens paumé, c'est tout.
Mais tu as la vie, petit con. Tu comprendras un jour combien c'est important. La vie.
Yannick Girardot, qui jouait ce docteur Françoise Gaillan, en parlait au micro d'Europe 1.
J'ai foncé dans cette histoire parce que c'est difficile de parler justement du cancer. On dit comment, cinéma, ne parlons pas de ça, il n'y aura pas de spectateurs. C'est pas vrai. Ou parce que ce que je vous dis dans ce film, c'est qu'on peut s'en sortir, nom de Dieu. C'est un cri d'espoir, c'est une victoire et on peut tous l'avoir.
En fait, c'est dans les années 90 que le milieu médical va devenir un sujet de fiction à part entière. Il faut dire qu'il fascine et intrigue. Que se passe-t-il dans les blocs opératoires? Comment les médecins gèrent-ils leurs émotions au quotidien? Une série va tout changer. Urgence, diffusée pendant une quinzaine d'années sur France 2, avec notamment le docteur Ross, joué par Georges Clooney.
Tu comptais me dire ce qui s'est passé avec cet enfant? Tu ne devais plus prescrire de narcotiques. Et surtout, il y a des choses dans la vie qu'il faut partager avec sa compagne.
J'ai fait ce que je pensais être juste.
Sans penser aux conséquences ni à ceux qui allaient être inquiétés.
J'avais l'intention d'endosser toute la responsabilité.
Ils ont fermé ma consulte. Ce qui implique que des centaines de malades n'auront nulle part où aller se faire soigner. Ton inconscience entraîne des tas de conséquences.
Je te demande pardon.
Pour ça aussi, tu es champion.
Urgence, c'est 6 millions de spectateurs devant chaque épisode en France jusqu'à 30 millions aux États-Unis, avec un ressort narratif souvent assez simple. Comment sauver tel patient? Faut-il sacrifier tel autre? Devant un tel succès, les producteurs se frottent les mains et lancent dans la foulée Nip Tuck sur l'univers de la chirurgie esthétique, Grey's Anatomy qui raconte la vie d'un hôpital universitaire et qui en est aujourd'hui à sa 17e saison, ou le célébrissime Dr House porté par Hugh Laurie. Quand la série s'est arrêtée en 2013, certains médecins français étaient soulagés. Écoutez-les à l'époque au micro d'Europe 1.
Pour des maux de tête, ils viennent aux urgences, ils demandent l'IRM cérébral. Bah non, je pense que c'est des gens qui ont trop regardé Dr House, oui. Là, je me suis dit, mince, c'est une série que j'aime bien, mais ça a quand même ses inconvénients.
C'est vrai que une série comme House va nous amener à se perdre en multipliant justement des examens complémentaires à la recherche du diagnostic hyper rare des maladies auto-immunes rarissimes et des anticorps anti-je ne sais quoi pour au final ne plus savoir ce qu'on fait, ce qu'on cherche et ce qu'on traite.
Alors la production française va prendre le train des séries médicales, souvent avec humour d'ailleurs. C'est le cas de H, une sitcom qui se déroule dans un hôpital avec une équipe de joyeux lurons, pas toujours très malins, parmi eux Jamel Debbouze ou encore Ramzi Bedia.
Je sais que c'est vous qui avez volé les plâtres.
Ah d'accord. 18, on sait pas qui accuser, on accuse les deux Arabes. Elle est belle la mentalité, et en plus sans preuve. Donc ça veut dire que les deux buts de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde, ils ont servi à rien du tout. Ben c'est bien triste.
Et plus récemment, en 2018, Thomas Lilti, médecin de formation, sort Hippocrate sur Canal+, dont la saison 2 arrive dans quelques jours. Là encore, le quotidien d'interne à l'hôpital. On en reparlera avec le réalisateur qui sera notre invité dans un instant. Mais après les séries donc, le cinéma décide de traiter lui aussi du monde médical en tant que tel sous un angle réaliste, à commencer par exemple par la question du don d'organes dans Réparer les vivants de Catel qui les verrait, l'histoire du questionnement d'une famille dont le fils est condamné suite à un accident de surf. Faut-il accepter de donner ses organes et ainsi sauver quelqu'un d'autre?
Votre fils Simon a eu un grave accident de la route.
Mais je comprends rien.
Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe.
On pourrait aussi parler de La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, inspirée de sa propre histoire. Elle raconte sa lutte avec Jérémy El-Kaïm contre le cancer de leur bébé, entre visites à l'hôpital, stress des diagnostics et évolution de la maladie. Le film a été présélectionné pour représenter la France aux Oscars et Valérie Donzelli en parlait au micro d'Europe 1.
Très heureuse que ce soit ce film-là qui représente la France, parce que il n'y a qu'en France qu'on peut faire des films comme ça. Je pense qu'il a été sélectionné parce que c'était représentatif peut-être de la France, quoi. Ça parle quand même aussi de l'hôpital public. C'est un film qui est inscrit dans son époque et dans son pays aussi, donc on est très contents.
3 ans plus tard, c'est un autre réalisateur qui sort un film inspiré de sa propre expérience à une différence près. Il est lui-même médecin, je reparle bien sûr de Thomas Lilti. Dans Hippocrate, sorti en 2014, il raconte la vie d'interne en médecine à travers le personnage de Benjamin, jeune interne et fils de médecin.
Là, t'as l'accueil, derrière c'est le bureau des internes, c'est chez toi. 10 chambres, 18 patients.
18 ?
Alors, cette première semaine.
Je crois que je vais pas m'en assurer.
Voilà, sois pas trop sûr de toi, tu commences. Tu connais rien pour l'instant, alors quand tu sais pas, tu demandes.
Hippocrate qui attire 1 million de spectateurs dans les salles françaises. Alors les projets se multiplient, d'en voir le jour par exemple. La réalisatrice Marion Laine s'intéresse alors à une profession cantonnée jusqu'alors à de la figuration dans les films sur le milieu médical. Je parle des aides-soignantes. Sandrine Bonner y campe une aide-soignante au passé compliqué qui voit ses démons remonter à la surface suite à un drame survenu dans la maternité dans laquelle elle travaille.
S'il y a une chose sur laquelle on est tous égaux, c'est bien ça, c'est la santé. Il faut surtout pas rigoler avec ça. Il faut que l'État mette en œuvre un peu plus de moyens. C'est un film à la fois politique, ça, oui, mais c'est aussi un film très beau sur la naissance et la renaissance. C'est un film qui est aussi plein d'espoir, quoi.
Dans Médecins de campagne, maintenant, Thomas Lilti filme le quotidien d'un médecin de campagne. Le film porte bien son nom, qui exerce en plein désert médical.
Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore 2 médecins sur le canton.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Non. Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul.
Vous avez déjà pratiqué la campagne?
Non.
C'est quoi ces canards? Ils ont voulu m'attaquer, hein?
Ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres. Faut les humilier. Faut les choper par le cou et puis leur mettre le bec dans le cul.
c'est risqué, mais ça vaut le coup.
Ok, c'est bon, j'ai compris.
Et c'est François Cluzet qui jouait le rôle de ce médecin de campagne. Il en parlait au micro d'Europe 1.
Marianne Denicourt, qui est ma partenaire, qui est magnifique dans le film, elle a fait un boulot de documentation de dingo, quoi. Elle a lu des bouquins, elle a rencontré les médecins, elle est à l'hôpital, ça. Et moi, ça m'arrive de faire pareil, mais là, cette fois, c'était plutôt introspectif. Je me suis dit, mais moi, j'aurais rêvé d'être médecin. Et j'ai fait ça un peu à l'imaginaire. Et surtout, dès qu'on a commencé à préparer le truc, je me suis dit, ce médecin est un peu spécial, c'est que c'est ça, un sacerdoce. Ouais. C'est-à-dire que le type, il est médecin de campagne, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. J'ai essayé de le rendre vivant, quoi.
En fait, les médecins, qu'ils exercent en cabinet ou à l'hôpital, n'ont pas attendu la crise du Covid pour essayer de sensibiliser l'opinion publique à la dégradation de leurs conditions de travail. Et c'est ce qu'essaie de montrer, de représenter le cinéma. Dans le film Carole Mathieu, Isabelle Adjani interprète une médecin du travail. Et avant de jouer ce rôle, l'actrice a tenu à rencontrer de nombreux médecins pour comprendre la réalité de leur travail et savoir notamment comment ils gèrent ces salariés qui arrivent en détresse.
Évidemment, on ne peut jouer qu'à partir de soi, mais à travers les témoignages de ces femmes médecins du travail, on les empêche de traiter leur patientèle puisqu'elles n'ont droit qu'à 15 minutes de travail clinique avec les gens. Elles sont elles-mêmes très malmenées. Les gens ont besoin qu'on les prenne en compte. Ils ont besoin qu'on les reconnaisse.
Autre exemple avec la fille de Brest d'Emmanuel Berco. Elle dresse cette fois le portrait d'une médecin lanceuse d'alerte dans le scandale du Mediator, un film qui se veut militant. C'est assumé par la réalisatrice Emmanuel Berco sur Europe 1.
C'est une personne ordinaire, mère de 4 enfants, simple pneumologue à Brest. C'est par nécessité viscérale de défendre les victimes qu'il a fait se transformer en machine de guerre, et c'est ça qui est beau. Donc elle est effectivement dans la vie complètement à l'opposé du cliché qu'on pourrait se faire de quelqu'un qui mène un tel combat, c'est-à-dire elle est extrêmement drôle, fantaisiste, c'est ce qu'on appelle un phénomène. Et j'ai vu là un vrai personnage de cinéma, en plus de l'héroïne qu'elle est par ce qu'elle a accompli.
Alors comment, petit à petit, le cinéma a-t-il filmé avec de plus en plus de réalisme ce milieu médical? Pourquoi? Comment faire un sujet romanesque? Et puis, quoi montrer à l'écran? Jusqu'où aller? Toutes ces questions, je les pose dans un instant à mon invité, le réalisateur Thomas Lilti, qui signe notamment la saison 2 d'Hippocrate, qui arrive dans quelques jours sur Canal+. Il s'installe en studio, le temps pour nous d'écouter « Allô maman, Bobo ». C'est signé Alain Souchon et cette circonstance. Vous êtes à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaires. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman. Moi je voulais les sorties de port à la voile, la nuit parée les étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau clown, la belle Peggy du saloon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman, bobo. Comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaires. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo.
Et j'accueille maintenant dans le studio de Clap le réalisateur et médecin Thomas Lilti, bonjour.
Bonjour.
Je dis médecin parce que récemment vous avez repris la blouse, notamment au moment de la crise Covid.
Il y a un an quasiment,
ouais,
jour pour jour.
Ouais. Je suis content de vous recevoir parce que vous êtes réalisateur notamment de la série Hippocrate, dont la deuxième saison arrive dans quelques jours sur Canal+, que j'ai eu la chance de découvrir, on va en reparler. Mais aussi de films de cinéma, donc c'est ce que je trouve intéressant dans votre parcours. Avant de parler justement de la représentation du monde médical au cinéma, sur grand et petit écran d'ailleurs, pourquoi à un moment donné, vous avez ressenti le besoin de faire du cinéma? Est-ce que c'était un besoin de cinéma pur ou est-ce que c'était un besoin de parler mieux ou différemment du monde médical?
Non, je crois que c'était un besoin de trouver ma voix. Alors, souvent on a l'image d'un jeune homme qui a fait des études de médecine, un peu pour être dans le rang, quoi.
Ouais.
Un peu, j'ai un père médecin. Et puis qui après, d'un seul coup, s'est dit, finalement, je vais faire du cinéma. C'est pas tout à fait ça. J'avais envie de faire du cinéma. En effet, j'ai fait des études de médecine et je suis devenu médecin parce que dans ma famille, il n'y avait pas d'artiste. Donc, il y avait une sorte de cohérence à faire entre guillemets, ce qu'on appelle un métier sérieux. mais en fait, pendant mes études de médecine, je faisais déjà du cinéma. J'ai d'ailleurs mon premier long métrage qui n'a rien à voir avec la médecine. Le tournage était en 2005-2006 et j'étais encore interne en médecine. Donc, tout s'est mélangé dans cette période-là. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai jamais complètement trouvé ma place à l'hôpital ou en médecine libérale. J'étais toujours un peu malheureux, un peu un pas de côté. Et alors que je m'épanouissais pleinement à essayer de raconter des histoires. Et je crois qu'il y a une cohérence qui s'est vraiment faite quand se sont réunies ces deux choses dans ma vie. C'est-à-dire ce métier que j'avais appris, qui est quand même de longues années et que j'ai aimé, qui est le métier de médecin ou de soignant en général, et puis le cinéma. Et donc c'est à travers le film Hippocrate en 2014 que je crois que je me suis un petit peu trouvé.
Et justement, est-ce que vous aviez le sentiment que les films ou les séries qu'on pouvait voir, on en parlait il y a quelques minutes, mais notamment Urgence, est-ce que vous aviez le sentiment que ça représentait bien le milieu médical ou est-ce qu'il y avait un manque?
Non, déjà, je pense pas que je suis arrivé pour combler un manque. J'ai cette sorte de modestie encore, heureusement, ça, quelques années encore. Non, ce qui est certain, c'est que, alors, Urgence, c'est le bon exemple parce que moi, Urgence, c'est les années 90. Mmh. Et moi, j'ai mon bac en 93, donc j'ai fait mes études de médecine pendant la diffusion d'Urgence. Et donc, Urgence, c'était hyper important pour nous, les étudiants en médecine, parce qu'on connaissait pas bien l'hôpital. En même temps, on savait que c'était notre avenir proche, immédiat. Et donc, on a adoré Urgence, parce que ça racontait ce qu'on était en train de vivre. Et c'est vrai qu'Urgence est la première série, ou du moins on avait le sentiment d'une plongée un peu réaliste dans le monde de la prise en charge et du côté des soignants. Après, même Urgence fait et d'ailleurs c'est pas un reproche, hein, mais fait des concessions aux soaps, aux histoires d'amour,
ouais,
à toutes ces choses-là,
tout
à vraiment quelque chose de très romancé. Après, à part Urgence, il y a plein de séries médicales, mais que moi, je trouve pas passionnante parce que d'un point de vue médical, souvent, elles sont pas terribles. Et puis, elles sont surtout l'hôpital comme une arène pour faire du policier ou des histoires d'amour ou du thriller ou de l'épouvante ou de la comédie potache. J'ai rien contre, mais alors, pour le coup, moi, ça m'intéresse moins parce que c'est vrai que l'hôpital, pour moi, je le connais tellement bien que j'ai un besoin de réalisme.
Oui, mais justement, ce besoin de réalisme, comment on fixe la limite? Parce que je viens de terminer la saison 2 d'Hippocrate, que j'ai pu voir quelques jours avant qu'elle arrive sur Canal, et vous allez loin dans le choix de parler des pathologies, de parler des médicaments, des techniques utilisées. Est-ce que vous allez aussi loin que si vous parliez avec des confrères dans un hôpital, ou est-ce qu'il y a des limites pour, parce qu'on se dit à un moment, est-ce que je ne vais pas perdre le spectateur?
Non, il n'y a aucune limite. Je raconte l'hôpital comme les soignants en parlent entre eux. Alors évidemment, par moment, il y a des astuces scénaristiques pour que le spectateur soit pas perdu, parce qu'il n'y a pas que des soignants dans un hôpital, il y a aussi des patients, ouais. Il y a des familles de patients, il y a des gens. Donc par moment, il y a l'occasion quand même de faire passer des explications mais le plus intéressant, et cette année c'est particulier, c'est que finalement, c'est moins aux spectateurs, les spectateurs vont pas devoir s'adapter à ce monde hospitalier que je raconte, mais ils y sont ultra familiers depuis un an. Malheureusement, l'hôpital, il est rentré dans la vie de tout le monde. Si je vous dis qu'est-ce qu'un test PCR, vous savez.
Alors qu'il y a un an, je suis pas sûr.
Il y a un an, c'est pas sûr. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je crois que la série ne pose aucun problème de compréhension. Au contraire, il y a ce côté un peu découverte d'un monde extraordinaire que sont les coulisses d'un hôpital.
Et justement, une partie sans doute du succès aussi des séries ou des films sur le milieu médical, c'est parce que ça lève le voile. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a, il y a ce secret médical, il y a ce fait que c'est un métier très technique, très savant, et donc en tant que spectateur, on est content de découvrir un peu comment ça fonctionne. Sauf que ça fait un an qu'on baigne dedans. Est-ce qu'il y a une petite crainte en tant que réalisateur de ce type de film ou de série de se dire peut-être que les gens vont être moins intéressés ou vont avoir moins de curiosité maintenant qu'ils ont passé un an et peut-être encore plusieurs mois malheureusement dans ce quotidien-là? Avec des médecins sur toutes les chaînes d'infos en permanence.
Ouais, alors je sais pas, évidemment, c'est possible. Et puis, bah, tant pis, hein, ça serait, je pourrais pas y faire grand chose, hein. Vous savez, c'est pas moi qui ai appelé les Chinois en leur disant, vous voulez pas nous faire un petit virus pour un peu booster les audiences de ma série. Donc, peut-être que, évidemment, on est victime de ce qu'on vit. Je crois qu'il y a plus grave avec cette crise sanitaire que de savoir si ça va avoir un impact positif ou négatif sur les audiences de la série. Franchement, je me passerais bien de cette pandémie comme tout le monde. Maintenant, elle est là. Moi, je fais cette série. Je pense que ça n'aura pas beaucoup d'impact. Il y a des gens qui vont continuer à aimer Hippocrate, d'autres qui vont pas s'y intéresser. Je pense que ça jouera pas beaucoup. Par contre, ce qui est certain, c'est que ceux qui aiment la série Hippocrate, leur regard sera changé, je pense. Ils ont un regard sur l'hôpital, sur ce qu'ils vivent, sur ce que vivent les soignants. Depuis un an, ils ont été extrêmement sensibilisés. On a quand même, il y a un an, on applaudissait les soignants à 20h tous les soirs. Moi, si cette série peut permettre à nouveau de se dire, de se rappeler, de se remémorer quand même qu'on a des gens, quand c'est la catastrophe à l'hosto, et c'est ça qui est fort chez les soignants, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, c'est qu'il n'y a pas le temps de réfléchir, on n'est pas dans le temps de la réflexion, on relève les manches et on y va.
Et pour finir, Thomas Lilti, un projet de long métrage?
Ouais, bien sûr, j'espère pouvoir refaire un film. Vous savez, il faut toujours rester modeste parce qu'on ne sait pas, même si j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir mener à bien mes projets, les choses peuvent changer assez rapidement. Mais si j'ai la chance de refaire des films, oui, j'espère bien en faire un assez rapidement, ce qui ne m'empêchera pas d'avancer aussi sur une troisième saison d'Hippocrate, j'espère.
Eh ben, on espère tous. Hippocrate qui arrive dans quelques jours, le 5 avril précisément.
5 avril, les gars.
Sur Canal+. Merci beaucoup, Thomas Lilti, d'être venu dans ce studio.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Clap. Et c'est Pio Marmaille aujourd'hui qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les films de ma vie. On va revivre tous ses plus grands souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On est maintenant en compagnie de Pio Marmaille. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là pour répondre à notre questionnaire Les films de ma vie. Je vais commencer par notre traditionnelle question. Votre premier souvenir de cinéma?
Mon premier souvenir de cinéma, je pense que c'était Le Chaudron Magique de... J'ai déjà oublié le titre concret. Je crois que c'est un film de Disney où il y a question d'un chaudron magique et d'un jeune apprenti dont j'ai oublié le prénom.
Taram et le chaudron magique.
Voilà, c'est ça, Taram et le chaudron magique, oui. Et ça, je pense que c'est mon premier souvenir. Parce que je sais pas, je pense que c'est peut-être lié au fait que ce soit un dessin animé, des couleurs. Enfin, je me rappelle plus d'un truc de couleurs et d'énergie plutôt que du film en lui-même. Je devais être beaucoup trop petit.
Vous aviez quel âge, vous vous rappelez?
Je sais pas, je m'en rends pas compte. Je suis peut-être 4 ans. Quelque chose comme ça. Et je regarde un souvenir assez spectaculaire. Enfin, c'est un truc qui est plus de l'ordre de la sensation. Mmh. Mais alors, par contre, je sais même pas de quoi ça relate, ce film. C'est un mec qui cherche un chaudron, quelque chose comme ça, non?
Quelque chose comme ça.
Je ne vais pas vous dire. Je ne sais pas de quoi ça parle. En tout cas, je me rappelle qu'il y avait des couleurs, quoi. Voilà donc ce dont je me rappelle.
Un chaudron magique?
Une arme terrible. Elle est restée cachée pendant des siècles. Et si le Seigneur des Ténèbres la trouve et libère sa puissance, rien ne pourra plus lui résister.
Votre meilleur souvenir en salle, Pio Marmaille?
Je pense que le meilleur souvenir en salle que j'ai eu, je pense que ce serait Las Vegas Parano.
En route.
On avait 2 sacs bourrés d'herbes, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une galaxie multicolore de remontants, sédatifs, hilarants, larmoyantes. Donc on a eu besoin de tout ça pour le voyage.
En fait, déjà, je l'ai vu sans payer la place, j'étais rentré par derrière. Donc il y avait déjà un truc d'interdit. Ensuite, le sujet du film, ce type comme ça qui se laisse porter par cet excès, Hunter S. Thompson, qui est d'ailleurs un journaliste qui me fascine à plein d'égards, enfin surtout quand je pense à ses écrits, au rapport et à la modernité qu'il a amené dans le journalisme contemporain.
Universal Pictures présente
un
film de Terry Gilliam, Johnny Depp, Benicio del Toro, Las Vegas Parano.
T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris.
Il y avait tellement d'interdits dans ce film, et en même temps, c'est tellement ludique, et c'est tellement, les acteurs s'amusent tellement, que j'en garde un souvenir assez, où je me suis dit, tiens, si un jour je pouvais faire ce travail, pas journaliste, bourré de drogue à Las Vegas, mais simplement acteur qui joue ça, je pense que ça pourrait me plaire. Je pense que ça a été un des films qui m'a donné envie de faire du cinéma. Concrètement.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Alors ça va vous paraître un peu con, mais comment s'appelle ce film là, avec des Américains sur des porte-avions là, un film des années 2000 avec Rihanna, je ne sais plus qui est-ce qui joue dedans, où ils se font attaquer par des extraterrestres, hein, et ils récupèrent le porte-avions, un porte-avions des années 40-50 pour faire exploser le vaisseau ennemi.
Est-ce que c'est pas Battleship?
Oui, c'est ça, exactement, c'est ça, Battleship, ouais. Je crois que c'est ça.
Bienvenue à cet exercice naval international.
Contact surface non identifié à 4 nautiques.
Ça fait partie de l'exercice?
Probablement.
C'est un truc d'anticipation assez mauvais, très patriotique américain. Mais je me rappelle, j'avais vu ce film et les gens étaient complètement hystériques dans la salle. Les gens criaient, gueulaient. À un moment, il y a CDC. Et je me disais, mais putain, mais c'est un peu la foire. Il y avait une sorte de truc un peu foire d'empoigne où tout le monde gueulait, tout le monde criait, salaud d'alien, détruisez-les!
Putain, c'est quoi?
Et du coup, moi, j'étais hystérique, quoi. J'étais complètement, même si le film en soi n'était pas dingue, mais en même temps, ils font tout péter, mais ils savent très bien faire. C'était un peu la foire d'empoigne, ouais. Il y avait des trucs qui volaient et tout. Il y avait une telle hystérie.
Où est le capitaine?
Il est mort, monsieur.
Qui est le plus haut en grade?
C'est vous.
Et il y a Liam Neeson qui joue un général avec. Enfin bon, tout le monde est là. Tous les Américains sont là et ils font tout péter avec un. Façon en général, quand il y a des choses qui explosent dans les films, moi je suis assez bon client.
Continue à tirer.
Je peux pas vous mentir, j'aime bien quand ça explose. Ça c'est mon truc, ouais.
Le film culte que vous n'avez jamais vu.
Alors attendez, j'ai une meilleure histoire que ça. Je peux me permettre parce que ça est pas mal. C'était en fait finalement je l'ai vu, mais j'ai menti pendant 5-6 ans même plus. C'est Whiplash.
Ah.
En fait, Whiplash était sorti et tout le monde ne parlait que de Whiplash. Et moi évidemment je ne l'avais pas vu. Et un jour on était dans une espèce de truc un peu mondain, j'imagine, ou je sais plus quoi. Et il y a 3-4 personnes qui sont en face de moi, des gens sans doute où je me dis merde, il faut pas que je sois trop con, il faut que j'essaie d'être un peu fut-fut. Quelqu'un commence à parler de Whiplash. Et je dis bah oui bien sûr. Et là je sais pas pourquoi, je rentre dans le mensonge. Je dis bah oui j'ai vu Whiplash. Donc je m'enfonce dans le truc et j'écoute plus qu'autre chose. Et je sais que la personne à la fin dit oh! Mais par contre à la fin quelle violence, quelle dureté. Et c'est l'information que je retiens. Et après à chaque fois qu'on me parlait de Whiplash, je disais bien sûr je l'ai vu. Et je disais mais par contre à la fin putain mais quelle angoisse, quelle violence, sans jamais savoir de quoi il s'agissait, parce que j'avais jamais vu le film. Et j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, en fait. J'ai chez moi, et d'ailleurs, effectivement, la fin est terrible, mais c'est vrai que pendant des années, j'ai pipoté fort.
Neiman, t'as gagné la place. Les remplaçants vont nettoyer le sang sur ma batterie.
Est-ce qu'il y a un film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer, Pio Marmaille?
Moi, j'ai adoré Titanic, par exemple. Hein.
Un iceberg droit devant! Merci!
Je sais pas si on peut avoir honte d'avoir aimé Titanic parce que c'est quand même un truc du spectacle, mais au contraire, en fait, je pense que le moment de la honte, de ce petit moment de honte, c'est au moment où c'était sorti, il y avait une telle fascination populaire autour de ce film où on voyait des filles en transe ou des mecs en transe qui allaient le voir 20 fois et je me disais, ah, oh, qu'est-ce que c'est cheap de faire ça, moi je suis un peu au-dessus de cette. un peu au-dessus de ça, machin. Et en fait, quand je l'ai vu, au même moment, je me suis dit, ah ouais, mais quand même, je le reverrai bien, quoi. Je sais pas pourquoi. J'avais vraiment, enfin, j'étais, quand il coule, Leonardo DiCaprio, ben, moi, je suis désolé, ça me fout la chiale, quoi. Donc, effectivement, à ce moment-là, je ne l'ai pas dit. Oh, c'est un interview de vérité, hein. Là, je vous balance toute la vérité sur mon rapport au cinéma. Et oui, ça m'avait un peu, peut-être qu'à ce moment-là, je m'étais dit, non, mais Pio, sois un homme et tout. Et en fait, bah oui, j'ai trouvé ce film plutôt pas mal du tout, même.
Tu sautes, moi je saute, pas vrai?
Et pour finir, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Easy Rider. C'est un film sur la Beat Generation, sur les gens qui sont dans une sorte de recherche de liberté totale. Mais oui, enfin en tout cas, Steppenwolf par exemple, ça paraît con, mais je pense à cette chanson évidemment, mais je pense que c'est vraiment un hommage à la musique des années 70, à cette. Aux gens qui peut-être se soucient un peu moins de ce qu'ils peuvent développer. En termes d'image que ce qu'ils peuvent développer musicalement, quoi. Enfin, ça a été vraiment une bascule dans le rock psychédélique assez fort.
Like
Merci Pio Marmaille d'être venu dans Clap.
Ouais, c'était cool. Merci à vous.
Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Le temps d'accueillir mes collègues critiques. Et on va débattre aujourd'hui des films Wonder Woman 84, Je te veux moi non plus, La loi de la jungle et Tanguy, le retour sur OCS. On vous dira si ça vaut le coup de regarder cette suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et ils ont pris place dans le studio de Clap pour maintenant débattre des films qui sont sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. Au tour de la table aujourd'hui, j'accueille Marilyn Letertre de Madame Figaro et Thierry Chaise de Première. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Marilyn me disait que des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Ouais. On va dérouler tout ça puisqu'on va parler de Je te veux moi non plus sur Prime Video, de Wonder Woman 84 qui devait sortir en salle et qui arrive finalement en VOD payante, de La loi de la jungle en VOD également, et de Tanguy, le numéro 2, le retour, qui débarque sur OCS. Mais donc d'abord, Je te veux moi non plus, ça c'est sur Prime Video, c'est réalisé par Rodolphe Loga, avec la désormais célèbre Inès Reg et Kevin Debonne, qui est je crois son petit copain.
Hi Bradley. On est à 2 heures de chez toi là.
Comment ça on...
Salut Dylan.
Avec Dylan, on se connaît depuis l'école primaire, c'est mon meilleur ami.
Nina, ouais. J'ai quelqu'un à te présenter, Cassandra. Nina, ma meilleure amie.
Bah, je suis trop contente de te rencontrer, hein. Dylan m'a vachement parlé de toi. C'est cool. Je veux pas rester indéfiniment coincé entre ta meilleure pote et toi. C'est soit Nina, soit moi.
Alors, c'est un buddy movie, on peut le dire. Nina et Dylan sont meilleurs amis pour la vie depuis qu'ils sont tout petits. Ils partagent vraiment tout, ils ont une vraie complicité. Mais en grandissant, évidemment, leur chemin se sépare. Nina part vivre à Paris, Dylan, lui, est à Biarritz. Sauf que Nina quitte son petit ami, va à Biarritz pour les vacances. Marilyn me regarde du coin de l'œil. Va à Biarritz pour des vacances improvisées. Dylan est en couple avec une jolie jeune femme, mais Nina a un flash, c'est bien lui l'homme de sa vie. Pourquoi donc se sont-ils pas retrouvés? Pourquoi s'est-elle moquée de lui quand il évoquait l'idée d'un avenir ensemble? Marilyn.
Bah, je ne sais pas, je n'ai pas cette réponse. Et beaucoup de questions se posent une fois le film terminé. Pourquoi? Ça, c'est la première. C'est-à-dire que... alors. Inès et Kevin, enfin, donc leurs personnages Nina et Dylan font du surf. Ensuite, ils se chamaillent. Ensuite, ils sautent dans un château gonflable. Ensuite, ils crient beaucoup. Ah oui, parce qu'ils crient beaucoup. Et Nina et ses copines, elles crient beaucoup, 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 beaucoup. Elles sont un petit peu hystériques. Elles ne savent s'exprimer qu'en hurlant. Et puis alors, merci la caricature. Il y a une copine. Alors, c'est la chiante de service. Pourquoi elle est chiante? Parce qu'elle lit. Et oui, lire c'est chiant quand on est une nana. Et voilà. Et l'autre copine, elle est carrément une info hyper vulgaire. Tout
ça,
le temps.
Ça peut arriver.
Ah non, bien. Ah non, mais on est d'accord que ça peut arriver. Cela dit, c'est juste pas drôle. Donc, bah c'est long. C'est long, c'est pénible. C'est-à-dire que c'est un film de vacances, une histoire d'amour de vacances qui dure pendant 1h30, qui aurait dû rester un film personnel de vacances, car effectivement... Inès Reg et Kevin, Debonne, sont mariés femmes à la ville. Voilà. Et cette histoire est inspirée de leur histoire d'amour. Et franchement, c'est super. Enfin, bah, oui, mais peut-être ils auraient dû garder ce film pour leur mariage avec leur copain.
Thierry, je te veux moi non plus.
C'est dur pour le Pays Basque parce qu'ils avaient déjà eu à subir Mission Pays Basque.
Ah oui.
Oui, c'est vrai.
Un téléfilm récent de Fabien Taniente.
Avec Didier Bourdon.
Il y a un karma. Je trouve ça vraiment dommage, parce que cette Inès Reg a vraiment un abattage. Le problème, c'est que rien n'est canalisé. C'est-à-dire qu'on ne se sert pas de cette énergie, au contraire, qui la dessert. Sur les caricatures, on pourrait aller... évidemment, il y a la fille jolie face à la fille plus ronde. On se dit, tiens, ils vont creuser un peu, ça ne va pas être juste...
Oui, parce qu'elle a un physique moins avantageux que la petite amie.
Et voilà, et en fait, on se dit, ben non, en fait, ça ne va pas venir. Tout est posé.
Limite, moi, je trouve ça pas gênant que ça ne vienne pas. Que ne pas faire d'elle, justement, la petite ronde face à la très jolie. Oui, elle est petite ronde, elle est très jolie, c'est pas la question.
Oui, on en fait rien.
C'est ça qui est bien.
On n'en fait rien, et même, ça amène à un moment le personnage un peu désagréable, où on ne comprend pas très bien pourquoi. La jeune femme qui joue la copine nymphomane, sur scène, elle est absolument géniale. Elle est là, ça ne passe pas l'écran parce que, en fait, c'est pas le même travail. Moi, j'ai l'impression qu'il manque une direction. Alors, au-delà d'un scénario, une direction d'acteur.
Ouais,
non, mais une direction d'acteur. Parce que Inès Reg, vraiment, quand on l'a vu sur scène, c'est quelqu'un qui envoie. Mais sauf que c'est pas tout à fait le même métier et que ça aurait mérité d'être plus accompagné, en tous les cas. Voilà.
Ou accompagné.
Voilà, ou accompagné.
Te veux moi non plus.
Hein, moi non plus.
Sur Prime Video. Là, je vous allez aimer, j'en suis sûr. C'est Wonder Woman 84 qui arrive en VOD payante. C'est signé Patty Jenkins avec notamment Gal Gadot.
Ce monde n'est pas encore prêt.
citoyens du monde. Je suis là pour changer votre vie.
Tu as toujours tout eu. Alors que les gens comme moi, eux, n'ont rien eu. Maintenant, c'est mon tour.
Alors, nous sommes un peu plus de 3 ans après le retour de Wonder Woman sur grand écran. Le film se situe dans les années 80. Diana et l'une de ses collègues, qui s'appelle Barbara, travaillent dans un musée où est apportée une petite pierre dont on va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques, un peu comme la lampe d'Aladin. Barbara, elle est très jalouse de Diana. Pas forcément de ses pouvoirs, puisqu'elle les connaît pas, mais plutôt de sa beauté, de sa classe, de son swag. Elle va être manipulée par un présentateur télé, une sorte de Donald Trump, qui rêve d'avoir encore plus de pouvoirs. Ils vont donc voler ensemble cette petite pierre. C'est le début de la catastrophe, même si heureusement, Wonder Woman va se battre contre tous ces vilains méchants. Thierry.
Ah, le mot juste, c'est catastrophe. Ça, c'est vraiment bien écrit. J'ai trouvé ça atterrant. Mais de la première à la dernière image, qui met tellement longtemps à venir.
Ah,
parce
au
que
début, ça va.
Ah non, mais c'est épouvantable. Enfin, bon. Tout est épouvantable. Les scènes d'action sont épouvantables. Le scénario est épouvantable. Le jeu est aux abonnés absents. Il n'y a absolument rien. Moi, le premier Wonder Woman, je ne peux pas dire que j'étais à genoux devant. Mais au moins, j'ai passé pas trop mes moments. Là, on nous avait vendu comme le truc, l'hommage aux années 80. Vous allez voir, il y a un peu une dénonciation de Donald Trump, c'est un peu politique. On va faire notre Superman 2 et tout. Et je trouve, j'étais.
Mais il y a tout ça, mais c'est pas réussi, mais il y a tout ça quand même.
Il faut que quelqu'un. Maintenant, la mode est aux gens qui reprennent leurs films et les remontent dans une version qui font 4h30 au lieu de 2h30. Peut-être qu'il y a un film, mais en tous les cas, c'est pas celui qui nous est proposé. Donc j'attends de voir, une fois que toutes ces pièces seront mises en état, que le A va aller avec le Z. J'ai trouvé ça, mais épouvantable.
Voilà. Nous avions découvert ce film ensemble, Marilyn, dans une salle il y a maintenant fort longtemps. Quel souvenir en gardez-vous ? Wonder Woman 84.
Je dois dire que je suis assez d'accord avec Thierry. Alors, peut-être pas aussi dur que lui, parce que notamment sur le début, moi je trouve que la scène d'ouverture, notamment, est très réussie. C'est un espèce de concours guerrier, sportif, sur l'île des Amazones. Et moi, je trouve que cette ouverture, elle envoie, en fait. Et donne... En fait, une impulsion qui malheureusement va pas être suivie. Ça fait complètement pchit parce que, comme tu le disais, les personnages sont pas du tout incarnés, sont pas écrits. Pedro Pascal, c'est vraiment un méchant carton. Enfin, et alors le dénouement, l'affrontement final, je ne vais pas vous spoiler. Mais alors bon là, c'est carrément, on comprend pas ce qui se passe. On se dit ah ça y est, ah donc c'est fini. Bon voilà, très bien. Et puis, il y a toujours cette amourette avec Chris Pine, qui est quand même l'acteur le moins charismatique du monde. Donc, on n'y croit pas. Et puis, Gal Gadot, elle est canon.
Merci.
Franchement, elle porte super bien le costume. Oui. Elle le fait bien dans les scènes d'action. Mais elle n'est pas très inspirée en termes de jeu. Hein. Il ne se passe pas grand-chose.
Ah,
et puis, surtout, le vrai problème de cette suite, parce que moi, j'avais plutôt aimé le 1, même si j'avais des réserves. Mais c'est que il manque cruellement d'enjeux féministes et politiques, là où il y en avait beaucoup, beaucoup plus dans le premier.
Bon, ben voilà, Wonder Woman 84, c'est en VOD payante. Je pense que vous allez aller le louer après avoir entendu tout ça. Et Je te veux, moi non plus, c'est sur Prime Video. Vous restez avec nous dans un instant. La loi de la jungle et Tanguy, le retour. J'espère qu'on va réussir à vous convaincre au moins sur l'un des deux films. A tout de suite pour la dernière partie de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma.
Clap. Mathieu Charrier.
Clap, votre émission cinéma, dernière partie, toujours en compagnie de Marilyn Letertre, de Madame Figaro, Thierry Chaise de Première, qui m'ont bien descendu, Je te veux moi non plus, sur Prime Video, Wonder Woman 84 en VOD payante. On en vient à La Loi de la Jungle, c'est également en VOD, c'est signé Max Winkler, ça avait été présenté au Festival de Toronto, et on écoute un extrait.
On va s'en sortir, Lion.
Je trouve pas que t'aies l'air d'un boxeur.
Comment ça ?
Je sais pas, t'as pas le truc, c'est tout.
On n'a qu'une seule option. $100 000 à la clé. On se bat.
Et c'est donc l'histoire de deux frères. Un ancien boxeur pro qui s'appelle Lion, son frère Stan qui est devenu son manager. Ils participent, vous savez, des combats à main nue. Mais un jour, une défaite les plonge dans une banqueroute financière. Complètement endettés, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir traverser le pays pour participer à un tournoi clandestin organisé par un criminel. Pendant ce road trip, ils sont aussi chargés d'accompagner une adolescente en fuite. Et à problème, voilà, donc ils vont devoir la gérer tout en préparant un combat déterminant. C'est aussi la vie de ses deux frères. Thierry, celui-là, on...
Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est très fort, c'est qu'au début, on se dit « Ah, j'ai déjà vu tous les films qui sont proposés. » La relation entre les deux frères, la boxe, la jeune femme qui arrive au milieu. Mais comme ça arrive très vite, après, c'est ce que le réalisateur, qui est le fils, je crois, d'Irvine Winkler, le célèbre réalisateur et producteur américain, La Liste Noire notamment, arrive à en faire. Et c'est un film extrêmement modeste, mais très ambitieux sur ces comédiens. Je trouve que les trois comédiens apportent quelque chose à leur personnage qui fait que, oui, on a déjà vu ces scènes, mais en même temps, on a envie de les voir avec eux. On a envie de voir ce qui va se passer. Le personnage féminin est extrêmement bien écrit, justement, il ne se limite pas à une caricature ouais. d'eux, mais c'est beaucoup plus fin et plus intéressant que ça. Moi, ça m'a extrêmement ému, sans que ça appuie sans qu'il y ait des violons. C'est une très bonne surprise, en fait. C'est une très, très bonne surprise.
Mais après, il faut vraiment essayer de convaincre nos auditeurs, parce que ce n'est pas forcément le film qu'on louerait en VOD non. ou dont on irait acheter le DVD en voyant la jaquette, et pourtant, ça vaut le coup.
Ouais, et vraiment un grand film d'acteurs, je trouve. Je trouve qu'ils sont vraiment formidables.
Ça s'appelle La Loi de la Jungle. Et donc, on termine avec Tanguy, Le Retour. C'était donc le numéro 2 qui arrive sur OCS. C'est signé Étienne Chatillès. Vous retrouvez évidemment André Dussolier, Sabine Azéma et Éric Berger.
Oui ?
Maman !
Tanguy ?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là?
Lynn m'a quitté.
Oh, mon pauvre chéri.
C'est toute ma vie qui s'écroule.
T'as raison, Edith. On est en train de se faire enfler.
Dis-moi, le temps passe, mais t'as pris une décision?
Une rupture, c'est comme un deuil. Ça dure un an.
Parce que tu comptes rester ici un an?
L'enculé! Il aurait pu prendre un appart depuis longtemps, hein!
L'essentiel, c'est qu'il dégage.
André Dussolier, Sabine Azéma. Les parents, toujours, profitent tranquillement de leur retraite. Ils passent leur journée à jouer au golf avec leurs amis, planifient leurs vacances. Le soir, ils regardent des séries. C'est des parents modernes. Bref, la belle vie lorsque soudain, on sonne à la porte. Qui revoilà ? Tanguy. Il a maintenant 44 ans. Sauf que Maïline, sa femme japonaise, l'a quitté. Il est dévasté. Il débarque avec sa fille. Au début, ses parents vont accepter de l'aider, de le soutenir. Mais très vite, voilà, ça devient pesant. Et ça repart. Alors, c'est vrai qu'on retrouve un peu tous les gags. J'aime pas comment me regarder. Tous les gags du premier Tanguy, les mêmes ressorts. Le coup de la vis qui ressort du plancher pour qu'ils se prennent l'orteil dedans, etc. etc. Marilyn.
Voilà, etc. etc. Donc, ça suffit à résumer le film. On dit souvent que, en fait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Eh bien, pas toujours. Est-ce que là, la recette, elle a un petit goût de rance?
Mais pourquoi ce qui marchait sur le premier ne marche plus sur le deuxième?
Parce que c'est les mêmes gags. Oui. Parce que c'est exactement la même chose. Donc, c'est totalement prévisible. On voit chaque gag arriver. En fait, clairement, je pense qu'Étienne Chatillès, il a perdu son mojo. Voilà. La férocité qu'on adorait dans son cinéma, elle a totalement disparu. Et là, il reprend exactement les mêmes... C'est le même procédé, c'est les mêmes personnages, rien n'a évolué, ils n'ont pas évolué. Et en fait, on sait exactement tout ce qui va se passer et on s'ennuie. On s'ennuie et même par moments, on est très embarrassé de voir André Dussolier, Sabine Azéma, qu'on aime tant dans ce pétrin où je pense qu'eux-mêmes ne comprennent pas trop ce qu'ils y font. Voilà. Et donc, en fait, on est totalement interloqué et on se dit... Tanguy, le retour insuffira. Hein, pas de retour. C'est pas la peine.
En plus, Éric Berger, le personnage de Tanguy, on avait plutôt de l'amour pour lui dans le premier.
Oui,
on avait envie
là,
de l'aider.
Il est juste
là, il est énervant. Hein.
Détestable. Voilà, et en plus, Éric Berger, qui était très bon, je trouvais, dans le premier, là, il est à côté de la plaque. Bon. Je le trouve pas très bon.
Thierry, vous allez me trouver un argument positif. Ah non, il veut pas. Même ça,
peut-être
il veut pas.
Que ce sera, ça, peut-être qu'Étienne Chatillès s'arrêtera là.
C'est bien comme argument positif.
Ce qui est dommage, c'est que. Non, mais la différence, c'est quoi? C'est que. Avant de faire Tanguy, on n'appelait pas les gens qui vivaient comme Tanguy des Tanguy. Il a fait de son...
Oui. Enfin,
tout avait été dit. Non, mais qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que le premier? Absolument rien. Mmh. Étienne Chatillès, pour moi, c'est un peu comme Colin Serrault. C'était des gens qui, dans les années 80-90, étaient complètement dans la société. Elle, c'était Trois hommes et un couffin. C'était La Belle Verte, qu'on aime ou non. Lui, c'était La vie est un fleuve tranquille. C'était Tati Daniel. Et puis, depuis Tanguy, moi, je trouve qu'il est... C'est totalement perdu, les films précédents. Mm-hmm. Et parce que, comme ce n'est pas un metteur en scène qui brille par la réalisation, ça brille forcément par cet ancrage dans la société et la comédie qui peut en faire. Sauf que là, à partir du moment où il n'y a pas d'ancrage, il n'y a plus de férocité, il n'y a plus rien. Il a perdu le socle. Et donc, ça part n'importe où. Je pense qu'André Dussolier et Sabine Azéma ne peuvent pas dire non parce que c'est quand même une amitié qui les lie. Voilà, et c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, même en salle, ça n'a pas marché. Mm-hmm. Même le premier jour, la première semaine n'avait pas été bonne. Tanguy, on n'a pas envie. Pour moi, on n'avait pas envie de le retrouver. Il ne nous avait pas spécialement manqué. Et là, on espère qu'il n'y aura pas de 3.
J'espère qu'il ne reviendra pas. Ouais. Même un soir pour se vider la tête?
Ah oui.
Ah non.
Ouais, bon. Vraiment. Surtout en ce moment. Non.
Bon, ben voilà. Ben aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on était de très bons conseils. Hein, à part La Loi de la Jungle que vous retrouvez en VOD. Sinon, on a parlé de Tanguy, Le Retour sur OCS. Wonder Woman 84, c'est en VOD payante. Et Je te veux, moi non plus, sur Prime vidéo. Marilyn Letertre, merci quand même. Madame Figaro.
Mais de rien, Mathieu.
Thierry Chaise, de première, merci d'être venu.
Merci.
Bientôt un nouveau numéro.
Oui, avec Eiffel en couverture. Ah. Le récit, 25 ans de récit avant d'arriver à ce film de Martin Bourboulon avec Romain Duris.
Qui très arrivera beau film. En salle en mai et qu'on vous conseille, on aura l'occasion d'en reparler puisque Europe 1 est partenaire de ce film et on est fiers. Eiffel de Martin Bourboulon. Merci à nos amis derrière la vitre qui réalisent cette émission, Nicolas Baudin, Marjorie Adelson qui la prépare. Moi, je vous abandonne quelques semaines. Et je cède mon siège à Margot Barallon qui sera avec vous pour les prochaines émissions. Mais l'émission reste la même. On retrouvera Thierry et Marilyn qui n'aiment rien. Ne vous inquiétez pas. Même format, même heure, 14h, 15h tous les samedis sur Europe 1. Clap que vous retrouvez également en podcast. Abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre une petite étoile. Europe 1.